Une semaine de discussion à huis clos et peut-être hors de Nouméa, Manuel Valls arrive ce soir sur le territoire et posera dès demain son projet d'accord sur la table. En métropole, vaste coup de fil à une trentaine d'individus arrêtés après les attaques dans les prisons. Des exécutants, mais aussi des commanditaires qui ont un lien avec la DZ Mafia. L'actualité judiciaire, les papy braqueurs à la barre. Une dizaine d'individus âgés d'environ 70 ans sont jugés depuis hier pour le vol avec violence sur Kim Kardashian. C'était en 2016 à Paris, montant du butin environ 1 milliard de francs. L'actualité religieuse est rendez-vous le 7 mai pour les cardinaux. Ils seront réunis en conclave au sein de la chapelle Sixtine pour élire le prochain pape. L'actualité internationale, l'Espagne et le Portugal privés de courant. Une panne massive qui touche l'ensemble de la péninsule ibérique. L'électricité est rétablie petit à petit. Le sport est J-1 avant le début des demi-finales aller de la Ligue des champions de football. Tous les regards seront tournés vers Londres demain matin pour nous, puisque le Paris Saint-Germain sera en déplacement sur la pelouse d'Arsenal. La météo sur la façade ouest et le nord-est, les éclaircies s'imposent cet après-midi. Au Loyauté et sur le relief, quelques averses persistent. Les températures maximales sont en très légère baisse sur la façade ouest, mais restent au-dessus des valeurs de saison, souvent entre 25 et 28 degrés, localement 29 degrés sur l'est et aux îles.
Bienvenue dans Infomatin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une, l'actualité politique en Nouvelle-Calédonie.
Oui, c'est donc ce soir que Manuel Valls arrive en Nouvelle-Calédonie pour son troisième déplacement en seulement 3 mois, Lionel Sabot.
Le ministre des Outre-mer arrivera dans la nuit et sera à pied d'œuvre dès demain, mercredi 30 avril, pour entamer une nouvelle phase de négociation sur l'avenir institutionnel. Il mettra sur la table un nouveau projet d'accord et il espère que cette nouvelle séquence permettra d'avancer vers un accord global. Ce nouveau séjour sera consacré quasiment intégralement aux discussions, même si le ministre des Outre-mer devrait avoir quelques séquences sur le terrain. Les négociations débuteront donc demain. Elles se poursuivront jusqu'au mercredi 7 mai, vraisemblablement à huis clos et peut-être en dehors de Nouméa. Manuel Valls sera accompagné, cette fois encore, d'Éric Thiers, le conseiller du Premier ministre pour la Nouvelle-Calédonie.
Et au cours de cette visite, la Nouvelle-Calédonie va changer de haut-commissaire. Louis Lefranc a été nommé préfet du Finistère lors du Conseil des ministres qui se tenait la nuit dernière pour nous. Arrivé en février 2023, il est resté un peu plus de 2 ans en Nouvelle-Calédonie et il quittera donc le territoire vendredi le 2 mai pour rejoindre la Bretagne. C'est Jacques Billan qui est appelé à lui succéder comme haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie après sa nomination au Conseil des ministres. C'était le 9 avril dernier. Jacques Billan qui devrait prendre ses fonctions dès le 3 mai.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, tout d'abord. 88% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS ne pensent pas que la troisième visite de Manuel Valls permettra de progresser vers un accord global. Ils ne sont que 12% à penser à l'inverse, que cette visite permettra d'avancer vers un accord. Voici maintenant notre question du jour. Faut-il, selon vous, imposer la plus grande confidentialité autour des discussions sur l'avenir institutionnel qui reprennent demain pour donner toutes ses chances à un accord? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. L'actualité judiciaire et 2 individus ont été arrêtés après l'incendie d'une maison dans la nuit du 23 au 24 avril dernier à Tontouta. Il s'agit de 2 cousins habitant la tribu de Bangou. Ils ont reconnu les faits de vol dans la maison et du véhicule des propriétaires qui étaient absents au moment des faits. Le 3e homme est lui suspecté d'avoir mis le feu à l'habitation. Il est toujours recherché. C'est ce qu'indique le procureur dans la République, Yves Dupas, dans un communiqué publié hier soir pour nous, Lionel Sabot.
C'est la vidéoprotection de la propriété de la commune de Païta qui a permis de les identifier. Le 26 avril, 2 jours après les faits, les parents des 2 hommes se présentaient à la gendarmerie en révélant leur participation aux faits. Lors de leur garde à vue, ils ont reconnu leur implication dans les faits de vol. D'après les éléments de l'enquête, ils sont partis à pied de la tribu pour voler de l'alcool, de la nourriture et de l'argent sur la propriété Manien. L'auteur majeur a été jugé sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il a été condamné à 1 an de prison ferme et a été incarcéré. Le jeune mineur a été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à son procès. Il a notamment l'interdiction d'apparaître sur la voie publique sans un représentant légal entre 18h et 6h. Les investigations se poursuivent quant à à l'identification et l'interpellation du troisième auteur présumé, notamment du vol suivi de l'incendie de l'habitation.
Autre affaire, le groupe scolaire de Yatay et son personnel en proie à de nombreux cambriolages le week-end dernier.
Les domiciles de trois enseignantes du collège de Wao ont été visités samedi alors qu'elles étaient absentes. Le proviseur de l'établissement a aussi été ciblé. Son véhicule a été volé, retrouvé plus tard, entièrement incendié à la coulée. L'école maternelle faisant partie du même groupe scolaire a également été détériorée. Les portes d'entrée fracturées, des inscriptions notées sur le tableau blanc de l'une des classes. Mauvaise surprise également pour une infirmière habitant le secteur. Son logement s'est aussi fait visiter pendant son absence. Une enquête est en cours.
Et dans son communiqué, le procureur de la République Yves Dupas affirme que dans ces affaires, comme dans d'autres enquêtes en cours depuis plusieurs semaines maintenant, il s'agit avant tout d'actes de délinquance habituelle ou de comportements, je cite, inconséquents ou stupides, mais en aucun cas d'agissements préparés et structurés visant à troubler l'ordre public et intimider la population. Fin de citation. Et puis en bref, je rappelle que le bilan de l'insécurité routière s'est encore alourdi. Dimanche, en fin d'après-midi, un jeune homme de 19 ans a perdu la vie dans un accident qui s'est produit à Poya, dans le secteur de la tribu de Netea. Il était le passager d'un pick-up qui a fait une sortie de route. Il a été éjecté du véhicule au moment de l'accident. Il n'a pas pu être réanimé par les secours. Le conducteur du véhicule n'a lui été que légèrement blessé. Depuis le début de l'année, 11 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Nouvelle-Calédonie.
À Radio Rythme Bleu, 6h37.
Dans le reste de l'actualité, ce matin, l'actualité institutionnelle. Les quatre textes étudiés hier après-midi par les élus du Congrès ont été adoptés à l'unanimité, Lionel. Il s'agit de quatre projets de délibération concernant le secteur de la santé.
Oui, les deux premiers étaient d'ordre budgétaire. Il s'agissait de fixer le montant de l'OCEAM, comprenait l'objectif calédonien d'évolution des dépenses d'assurance maladie pour les exercices 2024 et 2025 et le taux directeur d'évolution des dépenses hospitalières sur la même période. Depuis sa création en 2016, le montant annuel de l'OCEAM était revalorisé d'1,27% par an. Mais pour 2024, il sera légèrement en baisse de 0,17% pour un montant global de 74,870 milliards et enregistrera une hausse de 0,25% en 2025 pour un montant global de 75,060 milliards. Quant au taux directeur d'évolution des dépenses hospitalières, il est gelé pour 2024 et 2025. Dans les deux cas, il s'agissait de maintenir les équilibres, a expliqué Sonia Baquès du groupe Les Loyalistes.
L'objectif, c'est de continuer à maîtriser les dépenses de santé. On attend maintenant du gouvernement un vrai plan de réduction des dépenses de santé, tout en permettant de faire évoluer la situation sanitaire pour que tout le monde puisse être soigné correctement. C'est toute la difficulté de l'exercice. On a aujourd'hui des endroits dans lesquels on a des difficultés à être soigné, on a des difficultés à recruter un certain nombre de personnels soignants. Donc l'idée, c'est de faire des coupes dans les dépenses qui ne sont pas obligatoires et sur lesquelles on peut faire des économies, tout en permettant d'avoir un système sanitaire qui fonctionne.
Et les élus ont ensuite adopté le texte créant le statut d'infirmier en pratique avancée. Il s'agit de permettre aux infirmiers et infirmières d'effectuer des actes sous condition, des actes qu'ils n'étaient pas autorisés à effectuer jusqu'à présent. C'est un moyen de pallier les carences en soignants. Un texte adopté lui aussi à l'unanimité après que deux amendements aient été rejetés par les élus. Deux amendements déposés par les loyalistes pour revaloriser les actes pratiqués par les infirmiers.
C'était l'occasion pour nous d'aborder globalement le sujet des infirmiers qui ont quand même beaucoup donné pendant la période des émeutes, qui continuent à être très présents sur le terrain, à aller dans des endroits où personne ne va, à faire des soins que personne ne fait, et qui malheureusement n'ont pas été revalorisés depuis très longtemps. Donc l'idée, c'était par le biais de deux amendements, l'un qui permettait dans le secteur public de valoriser l'ancienneté, et l'autre qui permettait de revoir le coût des actes pour les infirmiers libéraux, de revaloriser la fonction pour éviter les départs massifs tels qu'on les ressent aujourd'hui. Malheureusement, ces deux amendements ont été rejetés par une majorité indépendantiste, 25 voix contre 24. Il nous a manqué la voix de Yoann Lecourieux qui nous aurait bien aidé, mais les indépendantistes sont toujours dans l'immobilisme.
Sonia Baquès au micro Radio Rythme Bleu de Jean-François Bodin. Le dernier texte adopté est une délibération sur le Fonds autonome de compensation en santé publique. Lors des échanges sur ces quatre textes, il a plusieurs fois été demandé au gouvernement de travailler un plan global basé sur le plan d'Ocamo pour renforcer le système de soins et son fonctionnement en Nouvelle-Calédonie.
Les élus du Congrès qui se retrouveront de nouveau ce matin dans l'hémicycle du boulevard Vauban. À l'ordre du jour, deux projets de loi du pays et trois délibérations concernant les questions d'environnement. Les partenaires sociaux se sont retrouvés une dernière fois hier matin pour la clôture du séminaire social et fiscal du gouvernement. Ils ont ainsi finalisé leurs travaux en élaborant un document de cadrage fixant les grandes orientations à venir, à savoir les objectifs, les priorités et le calendrier. Alors que faut-il retenir de ce séminaire? Quelles pistes ont été évoquées et comment le travail va-t-il se poursuivre? Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge de l'économie qui organisait ce séminaire, sera tout à l'heure notre invité du matin à 7h30. Et puis un autre rendez-vous, le dispositif Sudpro, mis en place par la province Sud pour injecter 1 milliard dans l'économie, au cœur du magazine Citoyen ce midi. Qu'en attendent les personnes qui vont pouvoir en bénéficier? Nous en parlerons avec Claire Barrancourt, la directrice adjointe de la Direction du développement économique et touristique de la province Sud, Laura-Marie Rivière, fleuriste, et Martin Roure, gérant d'une société de smartphones. Rendez-vous donc ce midi dans notre magazine Citoyen. Et enfin, l'actualité religieuse. Hier, le 28 avril, était la date de célébration de Saint-Pierre Chanel, martyr de l'Océanie. On célébrait le 184e anniversaire de sa mort à Futuna. Sur le territoire, une messe a été célébrée en la cathédrale Saint-Joseph par l'archevêque de Nouméa, Mgr Susitino Sionepoe. Une célébration importante pour la communauté wallisienne et futunienne.
Tous les ans, nous fêtons la fête de Saint-Pierre, tous les 28 avril de chaque année. Par sa mort, il a converti pas mal de personnes sur Futuna. C'est pas pour rien que c'est le martyr de l'Océanie, patron de la vocation.
Saint-Pierre Chanel, c'est un grand jour pour moi, pour la Calédonie, parce que c'est un saint du Pacifique qui a été martyrisé. L'année dernière, j'étais à Poi pour Saint-Pierre Chanel. Et là, c'est un événement pour nous, mais aussi pour toute la Calédonie.
Saint-Pierre Chanel, c'est notre grand saint de notre Fénois, Wallis et Futuna. Et c'est une grande joie pour nous aujourd'hui. Avec l'évêque, ça, c'est encore un grand jour en plus.
C'est notre saint préféré de la communauté. Et nous espérons avoir plus d'enfants de la communauté qui vont s'orienter vers la prêtrise, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes en difficulté de la pauvreté des prêtres de l'Église catholique. Alors en ce jour, on espère que les jeunes vont pouvoir, avec l'aide de Saint-Pierre Chanel, reprendre le chemin des séminaires.
Et rappelons que c'est le 8 décembre 1837 que Saint-Pierre Chanel avait célébré sa première messe sur l'île de Futuna. Il avait été tué le 28 avril 1841, devenant ainsi le premier martyr de l'Océanie. En bref, enfin, le vice-premier ministre néo-zélandais est en visite officielle en Nouvelle-Calédonie pour les 1er et 2 mai. Les honneurs militaires lui seront rendus à l'aéroport de la Tontuta. Il échangera sur place avec des militaires néo-zélandais qui participent à l'exercice Croix du Sud avant de poursuivre son déplacement à Nouméa. Il est 6h43, vous écoutez Radio Rythme Bleu. Après la pause, l'actualité judiciaire en métropole avec des papis braqueurs sous le feu des projecteurs, l'assassin du Gard qui se rend en Italie ou encore la DZ Mafia qui est derrière la DDPF.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
Canel fête ses 30 ans et c'est vous qui recevez les cadeaux. Jusqu'à la fin de l'année, tentez de gagner 30 ans d'internet et ce n'est pas tout. Chaque semaine et pendant toute l'année, un abonné sera tiré au sort et remportera un mois d'abonnement. Jeu réservé aux abonnés Canel. Plus d'infos en boutique.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand.
La suite du journal avec ce vaste coup de filet après les attaques de prison en métropole. Une trentaine de personnes soupçonnées d'avoir participé à ces actes ont été interpellées. Des arrestations qui ont eu lieu aux quatre coins de l'Hexagone, Jean-Baptiste Marty.
Oui, des interpellations aux quatre coins de la France, à Agen, Metz, en Seine-Saint-Denis, mais aussi dans plusieurs prisons de France, notamment à Saint-Quentin, Falavier, 29 interpellations au total, dont 5 extractions, c'est-à-dire des arrestations directement en cellule, selon une source policière. Parmi les suspects interpellés, des commanditaires, certains incarcérés actuellement, d'autres des exécutants, sont en régime de semi-liberté ou ont récemment été libérés. Selon les informations d'Europe 1, la majorité des suspects sont passés par la case prison, d'où le fait qu'ils connaissaient certains surveillants, leurs noms, leurs adresses. Et certitude désormais, c'est que ce sont bien les narcotrafiquants qui se cachent derrière ces attaques, et plus précisément la DZ Mafia, le gang marseillais. Des intimidations très certainement liées à la création des deux prisons pour les narcotrafiquants, mises en place d'ici l'automne prochain.
Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. Les policiers étaient à sa poursuite depuis 3 jours. Le meurtrier présumé du jeune malien Aboubacar Cissé, tué dans la mosquée de la Grand Combe dans le Gard, s'est rendu dans un commissariat du centre de l'Italie. Le parquet de Nîmes reconnaît le caractère raciste de ce crime, William Molinier.
Oui, une information judiciaire vient d'être ouverte pour assassinat commis à raison de la race ou de la religion. Autrement dit, à ce stade de l'enquête, cette circonstance aggravante est bien retenue à l'encontre du suspect. Cet homme, né en 2004 à Lyon, est un Français d'origine bosnienne. Il s'est rendu hier soir tard dans un commissariat de Pistoia, à côté de Florence. Il était accompagné d'un avocat et d'un membre de sa famille. Outre la piste raciste, celle de la fascination pour la mort est toujours d'actualité. Le suspect aurait eu envie d'être considéré comme un tueur en série, selon une source judiciaire. La version de l'acte anti-musulman est démentie par l'avocat italien du suspect. Selon lui, son client a tué la première personne venue. L'aspect religieux ne serait pas entré en compte dans le passage à l'acte. Désormais, un mandat d'arrêt européen a été émis pour qu'il soit transféré en France. Procédure qui peut prendre entre quelques jours s'il accepte le transfèrement et quelques semaines s'il s'y oppose.
William Molinier d'Europe 1. Après ce drame, la France Insoumise s'est mobilisée en soutien à la victime. Plusieurs élus ont d'ailleurs participé à un rassemblement, place de la République à Paris. Jean-Luc Mélenchon y est apparu en larmes et a dénoncé un climat islamophobe entretenu, selon lui, par certains responsables politiques et qui aurait favorisé le passage à l'acte de l'individu.
Alors, lorsqu'on entretient une telle ambiance, on ne doit pas s'attendre à autre chose que les esprits les plus dérangés y trouvent une justification pour leurs actes.
Dans le viseur de Jean-Luc Mélenchon, Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, qui est critiqué pour avoir mis 2 jours à se rendre sur place et pour avoir parlé d'un crime anti-musulman et non islamophobe. Bruno Retailleau dénonce en retour, je cite, la récupération de Jean-Luc Mélenchon et son indignation à géométrie variable, alors que le leader insoumis n'a pas toujours été aussi prompt à s'émouvoir pour des attentats commis dans des églises ces dernières années. Fin de citation. L'actualité judiciaire toujours avec l'ouverture du procès des papis braqueurs à Paris en 2016 en marge de la Fashion Week. Ils ont commis un vol avec violence sur la star Kim Kardashian. Ils l'ont ligoté avant de lui dérober pour 9 millions d'euros d'effets personnels, soit un peu plus d'1 milliard de francs. Une bague à 4 millions d'euros faisant notamment partie de ce butin. Pour Europe 1, Alexis de la Fléchère a suivi la première journée d'audience de cette affaire au retentissement international.
Tout a débuté vers 14h30, salle Voltaire au palais de justice de Paris sur l'île de la Cité, salle très ancienne ornée de boiseries et de dorures, et à l'intérieur beaucoup de monde, 400 journalistes accrédités au total, beaucoup de public aussi, et sur le banc des accusés, 10 personnes, 9 hommes et une femme pour la plupart septuagénaires, et c'est Younis Abbas, 72 ans aujourd'hui, petite doudoune marron, crâne chauve, qui est arrivé en premier à l'audience, l'air décontracté. Il reconnaît avoir participé au braquage en tant que guetteur, mais il le regrette, un point sur lequel son avocat compte bien s'appuyer ces prochains jours.
Ce n'est pas l'organisateur, il n'avait pas d'armes, il n'a pas planifié ce braquage, il y a participé, il n'a pas commis de violence. On souhaite toujours que les gens puissent s'amender, voilà, et qu'ils puissent peut-être changer malgré leur âge avancé. Et donc ça, oui, c'est un élément qui me semble important et décisif dans le cadre de ce procès, bien sûr.
Et ce qui a frappé tout le monde dans la salle d'audience aujourd'hui, c'est bien l'âge de ces braqueurs. Omar Haït Kedage, présumé cerveau du commando surnommé Omar le Vieux, a 69 ans. Il est sourd, invalide à 80%. Il s'est présenté recroquevillé à la barre. Didier Dubroc, alias Yeux Bleus, lui approche de 70 ans. Il suit un traitement de chimiothérapie. Ils vont devoir tenir tous pendant 3 semaines. Kim Kardashian est attendue à la barre, elle, le 13 mai prochain.
Alexis de La Fléchère, l'envoyé spécial au tribunal de Paris pour Europe 1. Il est 6h passé de 49 minutes. On va marquer une nouvelle pause publicitaire dans ce journal avant de voir notamment l'actualité internationale, l'Espagne et le Portugal qui font face à une panne massive de courant. Ou encore, on fera un point sur la préparation du conclave au Vatican.
RRB 6h-8h, Nicolas Legrand. Préparez-vous pour l'événement de l'année. Rendez-vous les 3 et 4 mai sur l'hippodrome de Boulot-Paris pour la fête du cerf et de la crevette. 2 jours de pure folie avec des animations, des concerts et plus de 140 exposants pour satisfaire toutes vos envies.
Venez tenter votre chance pour gagner des lots de crevettes et plus encore. Participez aux divers jeux proposés par les élus de la commune. Le rendez-vous à ne pas manquer, les 3 et 4 mai.
Plus d'infos sur la page Facebook Boulot-Paris événements.
Piscine Locale, c'est le spot pour votre piscine. L'équipement, matériel de filtration et de traitement, accessoires de nettoyage, produits chimiques et analyses. Piscine Locale propose également la construction et la rénovation de votre piscine. Venez nous retrouver au 87 route du Port des Pointes, Faubourg Blanchot, le magasin des quartiers sud au 31 85 68.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
L'actualité à l'étranger, c'est la suite d'Info Matin. On retrouve Nicolas Legrand.
Avec une trêve de 3 jours décrétée par Vladimir Poutine en Ukraine, les armes russes devraient se taire du 8 au 11 mai prochain à l'occasion des commémorations des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Kiev, de son côté, souhaite un cessez-le-feu de 30 jours. Mais alors, comment interpréter cette proposition du président russe? Écoutez l'analyse du géopolitologue Frédéric Ancel.
Je pense qu'il y a un effet d'annonce qui intervient alors chronologiquement juste après la fameuse trêve provisoire de Pâques, puisqu'il a instrumentalisé le religieux au profit du politique, comme souvent d'ailleurs. Là, il évoque le 9 mai. Alors qu'est-ce que c'est que le 9 mai? Ben, c'est pour nous le 8 mai, mais encore beaucoup plus, de manière beaucoup plus importante en Russie, puisque c'est la victoire de la grande guerre patriotique, comme il l'appelle, c'est-à-dire en l'occurrence contre le Troisième Reich. Le problème avec un cessez-le-feu, c'est que il peut être très rapidement transgressé. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si le cessez-le-feu, il est transgressé ici ou là, il peut très bien ne pas être remis en cause dans ses grandes lignes. Il faut bien comprendre qu'une trêve ou un cessez-le-feu ne sont que des actes militaires, donc qui engagent finalement malheureusement assez peu. Mais enfin, c'est déjà mieux que rien sur le front.
L'analyse du géopolitologue Frédéric Ancel. Donald Trump, de son côté, réclame un cessez-le-feu permanent. Je le disais avant la publicité, un blackout massif, une vaste panne d'électricité a touché l'ensemble de la péninsule ibérique, touchant aussi bien l'Espagne et le Portugal. Le gestionnaire de réseau espagnol travaille pour que la situation revienne à la normale, mais le rétablissement va prendre du temps. Seuls 20% de l'Espagne est réalimentée à cette heure. Écoutez Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol.
À l'heure actuelle, l'approvisionnement a déjà été rétabli dans plusieurs centrales du nord de la péninsule grâce aux interconnexions avec la France et le Maroc, pays auxquels je tiens également à exprimer ma gratitude pour leur solidarité en ce moment. Les cycles combinés des centrales hydroélectriques ont également été mis en service, ce qui devrait nous permettre de rétablir rapidement l'approvisionnement dans toute l'Espagne.
Les transports sont à l'arrêt. Des problèmes concernant la distribution d'eau sont également signalés. Les causes sont en cours d'analyse.
Radio Rythme Bleu, 6h52.
Enfin, l'actualité religieuse et le conclave qui débutera le 7 mai. C'est à partir de cette date que les cardinaux seront réunis au sein de la chapelle Sixtine pour élire le prochain pape. La date a été fixée cette nuit pour nous lors des congrégations générales qui permettent d'organiser la succession du pape François et de discuter des priorités de l'Église. Dans 10 jours, donc, les cardinaux de moins de 80 ans vont se couper du monde pour voter. Louis Salé pour Europe 1.
Oui, la chapelle est désormais fermée au public pour installer la fameuse cheminée d'où sortira la fumée blanche lorsque le pape aura été élu. Il faut aussi mettre des tables, des chaises, couper toutes les caméras du lieu car les cardinaux ne doivent avoir aucun contact avec le monde extérieur pendant le conclave. Il débutera le 7 mai au matin par une célébration à Saint-Pierre. Les cardinaux seront vêtus de leurs habits liturgiques, une soutane rouge, une robe de dentelle blanche et une petite cape appelée camaille. Puis l'après-midi, il y aura une procession jusqu'à la chapelle Sixtine. C'est à ce moment-là que sera prononcée la célèbre phrase « Extra omnes, tous dehors » en latin, avant de refermer les portes. Le premier scrutin du 7 mai sera de 2 votes, puis tous les jours, il y aura 4 votes, 2 le matin, 2 l'après-midi. Il faut savoir que les 3 derniers conclaves n'ont pas duré plus de 3 jours, car les réunions de pré-conclave, en fait, qui se déroulent en ce moment, permettent de bien préparer ce vote, afin que les cardinaux, finalement, entrent dans la chapelle Sixtine avec une idée plus ou moins précise du candidat idéal.
Louis Salé pour Europe 1. Il est 6h54, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause publicitaire dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive. On va parler de football puisqu'il y a un grand match en préparation pour le Paris Saint-Germain, le PSG, qui sera en déplacement demain sur la pelouse d'Arsenal, demi-finale aller de la Ligue des Champions de football.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La province Sud déploie SudPro. SudPro, c'est une plateforme novatrice qui interconnecte les patentés et les très petites entreprises durement éprouvées par la crise. C'est un dispositif fort, financé à hauteur de 1 milliard de francs par la province Sud, soit 250 000 francs par entreprise ou patenté. C'est surtout une aide directe et immédiate pour permettre de relancer l'activité. SudPro sera disponible dès la semaine du 5 mai depuis province-sud.nc. Avec SudPro, reconstruisons ensemble.
Besoin d'un nouveau véhicule? Alors rendez-vous au Village Automobile à Nouméa PK4.
Et oui, le Village Automobile, c'est le seul endroit qui regroupe 11 grandes marques de véhicules neufs.
Et jusqu'au 10 mai, profitez de nos prix les plus bas et venez essayer votre nouveau véhicule parmi nos marques. Chevrolet, Citroën, DS Automobile,
Great Wall Motors, Aval, Isuzu, Mercedes,
Opel, Peugeot, Power et Subaru.
Le Village Automobile, un seul endroit et des offres de folie. Le Village Automobile est ouvert en continu du lundi au vendredi et le samedi jusqu'à 11h30. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, première radio d'information.
L'actualité sportive, c'est la suite de votre journal. On retrouve Nicolas Legrand.
Du football, ce matin avec le coup d'envoi. Demain matin, des demi-finales aller de la Ligue des Champions. Un seul match au programme. Mais quel match, Lionel Sabot? Le PSG sera en déplacement à Londres.
Oui, déplacement à l'Emirates Stadium pour affronter les Gunners d'Arsenal. Après avoir fait tomber Liverpool et Aston Villa, les hommes de Luis Enrique s'attaquent à un nouveau monument du football britannique. Il faudra être costaud côté parisien face à une équipe qui a éliminé en quart de finale le tenant du titre, le Real Madrid. À domicile, les Gunners, poussés par leur public, sont en général intraitables. C'est donc une rencontre très compliquée qui s'annonce pour le PSG. Les Parisiens qui n'ont pas franchement bien préparé cette demi-finale en concédant, vous le savez, ce week-end, sa première défaite de la saison en championnat. Toutefois, à la veille de la rencontre, Vitinha, le milieu de terrain du PSG, aborde cette demi-finale avec une certaine sérénité.
C'est forcément un jeu différent, un match différent. Même pour le stage de la compétition. Et bien sûr qu'on va essayer de faire un résultat différent, on va tout faire. On ne va pas changer beaucoup notre manière de jouer parce qu'on est toujours fidèle à notre manière, à notre façon de jouer. Mais bien sûr qu'on va faire les choses différent parce que demain on veut que gagner.
Arsenal Paris Saint-Germain, première demi-finale aller de la Ligue des Champions. Match à suivre demain matin pour nous. Coup d'envoi de la rencontre à 6h hors de Nouméa. L'autre demi-finale verra jeudi matin pour nous une confrontation entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan.
Merci beaucoup Lionel Sabot. On termine ce journal avec les prévisions du temps.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et pour la météo, on vous retrouve Thierry.
Oui Nicolas, ce matin sur les fous marées, le soleil sera en recul et quelques averses se déclencheront. Sur la majeure partie de la côte est, le temps sera sec avec de belles éclaircies. Ailleurs, les nuages seront encore nombreux, mais en fin de matinée, des éclaircies se dessineront sur le sud-ouest. Des averses résiduelles se produiront encore aux abords du relief. Le vent pour ce matin orienté ouest à sud-ouest, entre 5 et 10 nœuds, localement sur les pointes nord et sud, 10 à 15 nœuds. La côte est sera souvent déventée. Cet après-midi, sur la façade ouest et le nord-est, les éclaircies s'imposeront. Au Loyauté et sur le relief, quelques averses persisteront. D'autres plus rares et faibles déborderont sur le sud-est en fin d'après-midi. Le vent pour cet après-midi orienté sud-ouest, cette fois autour des 5 à 10 nœuds. Encore 10 à 15 nœuds sur les pointes nord et sud. Sur la côte est, il sera généralement déventé. Mais des accélérations autour des 15 nœuds pourront se produire dans les vallées. Les températures maximales sont en très légère baisse sur la façade ouest, mais restent au-dessus des valeurs de saison, souvent comprises entre 25 et 28 degrés. Et localement, 29 degrés. Ce sera sur l'est et aux îles.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir suivi ce journal. Il sera évidemment disponible en réécoute sur notre site internet le www.rrb.nc. Dans un instant, on le rappelle des titres de l'actualité de ce mardi matin, puis le billet d'humeur qui sera signé Lionel Sabot. Et ensuite, vous avez un avis, vous nous appellerez au 25 46 46. A tout de suite.
Toute l'info en trois lettres, RRB.